chanson, c'est peu de chose.
Radio Grand Ciel présente Si on chantait, avec les grandes voix de la chanson française. Une émission créée par Patrick Durand et Gilles Secasse. À la technique, Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Vous connaissez Patrick Durand, un médecin qui s'intéresse aux arts puisqu'il fait du théâtre, qu'il joue du piano dans un orchestre de jazz et qu'il chante. Vous connaissez également Gilles Secasse, un journaliste qui joue dans un orchestre de jazz. Aujourd'hui, nous allons étudier plus particulièrement la musique de Jean Ferrat et de Gilbert Bécaud. Patrick Durand, bonjour.
Christiane.
Gilles Secasse, bonjour.
Bonjour Christiane Blain,
bonjour.
Alors peut-être commençons par Jean Ferrat. Que pouvez-vous nous dire de Jean Ferrat, Patrick Durand?
Je peux dire qu'il est né le 26 décembre 1930 à Vaucresson. Vaucresson, c'est en région parisienne. Je peux dire aussi qu'il est le cadet d'une fratrie de 4 enfants et qu'il vit une enfance modeste aux côtés d'un père joaillier et d'une mère fleuriste. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le père de Jean Ferrat, qui est un juif d'origine russe, est déporté. À 15 ans, Jean Ferrat quitte le lycée pour aider sa famille. Il commence en même temps des études de chimie qu'il délaisse de plus en plus au profit du théâtre et de la chanson. Tendance Prévert, nous sommes dans l'époque, Tendance Prévert et Cosma, qui est le répertoire à ce moment-là d'Yves Montand. À 20 ans, il joue de la guitare dans un orchestre de jazz, il compose ses premières chansons, il tente quelques auditions sous le nom de Jean Laroche, sans succès. Et l'horizon s'ouvre peu à peu en 1956, quand il met en musique « Les yeux d'Elsa », poème de Louis Aragon, 5 ans avant que Léo Ferré, à son tour, ne s'intéresse à ce poète Aragon. Ce n'est pas Jean Ferrat lui-même qui lance « Les yeux d'Elsa », mais André Claveau, le plus populaire des chanteurs de charme de l'époque, de ce moment-là. Et Jean Ferrat, remarqué par le métier, commence à tourner régulièrement dans les cabarets de la rive gauche en s'accompagnant lui-même à la guitare. Nous allons écouter « Les yeux d'Elsa ».
Tes yeux sont si profonds, en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si j'étais à mourir, tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur, tes yeux plus clairs que lui, lorsqu'une larme illuit, tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie.
En 1958, il enregistre le premier 45 tours et fait la rencontre de Christine Sèvres, une jeune interprète qui deviendra bientôt son épouse. En 1959, il connaît son premier succès avec le titre « Ma môme » que toute la France redonnera. En 1961, Zizi Jeanmaire lui demande des chansons et l'engage en première partie de son spectacle pour 6 mois à l'Alhambra, son premier musical pour lequel d'ailleurs il cesse de s'accompagner sur scène à la guitare. Deux enfants au soleil contribuent à l'ancrer dans l'esprit du public. Mais tout va décoller vraiment à la fin de l'année 1963 avec l'album Nuit et brouillard qui confirme que la chanson et son public peuvent finalement aborder, je dirais, tous les sujets.
Oui, en 1962, un petit peu avant cela, il publie un nouveau disque et reçoit à cette occasion de nombreuses distinctions. Le prix de la SACEM, prix de la Société des auteurs et le prix de l'Académie nationale du disque. Et la même année, il enregistrera l'album Nuit et brouillard, dans lequel il évoque la déportation. La qualité de cet opus lui vaudra le prix de l'Académie Charles Cros.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir.
À l'heure de la réconciliation franco-allemande, la diffusion de cette chanson fut déconseillée par le directeur de l'ORTF, mais rencontra un grand écho sur Europe 1 au cours d'une émission spéciale. Les censeurs n'imaginaient pas qu'elle serait plus tard enseignée dans les écoles.
Qualifiée par la presse des années 60 de « troubadour de la révolte », son credo tenait dans un titre de 1965 « Je ne chante pas pour passer le temps ». Même s'il réfuta longtemps le terme « engagé », trop proche de « partisan », il lui préférait le terme « politique ». Sa carrière fut ainsi jalonnée de chansons qui, par leurs aspérités, suscitèrent la polémique. Ainsi, Potemkin, sorti fin 1965, en période électorale, fut à son tour interdite par le directeur de la télévision, comme il refusa de lui substituer un autre titre. Ferrat fut déprogrammé de l'émission d'Albert Reisner, Tête de bois et Tendres années, puis de Télédimanche, ce qui lui valut le soutien de diverses personnalités et lui fit au final une certaine publicité.
Oui, sa carrière va se déployer sur tous les plans. Bobino, qui l'accueille en vedette début 1966 et début 1967, à chaque fois durant 3 semaines, suivi d'une tournée en France, en Belgique et ensuite en Suisse. Puis il part rencontrer son public au Canada et en Afrique du Nord. La même année, de retour d'un long voyage à Cuba, l'artiste publie un album riche d'influences musicales nouvelles, dont seront extraits les titres Santiago et Guerrilleros. En 1970, il parvint à remplir 12 soirs d'affilée le Palais des Sports, où Johnny Hallyday avait triomphé l'année précédente. Ferrat y pratiqua une politique de place à bon marché pour un public de trentenaires dont il se voulait en quelque sorte le porte-parole. Il sortait en outre chaque année un album qui caracolait en tête des ventes, mêlant toujours chansons d'amour et titres sociopolitiques. En 1971, il enregistre le célèbre album « Ferrat chante Aragon » et chante dans la foulée le titre « Aimer à perdre la raison », l'un de ses plus grands succès.
Que nous écoutons.
Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir.
Il faut enchaîner là.
À n'avoir que toi d'horizon.
Aragon a orienté sa vie et sa carrière. Butinant dans son œuvre, 40 ans durant, Ferrat l'a façonné à sa manière, sélectionnant des vers pour les répéter en refrain, des quatrains à l'intérieur des poèmes pour en faire des couplets, effectuant des césures différentes, des inversions. Aragon lui-même disait que les poèmes transformés en chansons ne lui appartenaient plus.
Reconnu et apprécié dans le monde entier, Jean Ferrat se produira cette année-là 12 jours sur la scène du Palais des Sports avant d'entamer une tournée en Europe, en Afrique du Nord et au Canada. Et lassé de cette vie de saltimbanque, il choisira l'année suivante de mettre un terme à la scène. En octobre 1972, il offre à son public un ultime récital au Palais des Sports. Et en 1975, au terme de 4 années sabbatiques, Ferrat fait son retour sur scène avec l'album « La femme et l'avenir de l'homme », vendu à 500 000 exemplaires. Cet opus lui offrira une nouvelle reconnaissance de ses pairs et du public.
Joueurs de football qui savent que leur monde est rond. Ils volent, volent, volent. Ils volent, volent dans les rues. Les petits joueurs de football de l'Amérique aux pieds nus. Pour sortir de la favela, il faut devenir champion. La faim leur donne des ailes, c'est la seule chance qu'ils ont. Leurs yeux jettent des éclairs, le vent brûle leurs poumons. Courez, courez, la misère vous grignote les talons. Ils volent, volent, volent.
Ils volent. Polygramme rachète à Barclay son catalogue à la fin des années 1970. Désireux alors de ne pas dépendre de la major, Jean Ferrat réenregistre là quasi l'intégralité de ses titres avec l'aide de l'arrangeur et chef d'orchestre Alain Goraguer, puis sort sous son propre label, T'aimer, avec l'éditeur Gérard May, une nouvelle édition de 11 volumes en 1980. La même année paraît un nouvel album, Ferrat 80, dont le titre phare, Le Bilan, ne passe pas inaperçu. Jean Ferrat y dénonce les purges staliniennes.
Oui, à la fin des années 80, l'artiste choisit de réenregistrer l'essentiel de ses 113 compositions pour sauvegarder toutes les bandes. Et en 1980, la publication de l'intégrale de ses titres en 12 volumes lui vaudra le diamant de l'année pour l'ensemble de son œuvre. À 44 ans, il réenregistre également Le Bilan, dont on vient de parler. En 81, déchiré par la disparition de son épouse Christine Sèvres, Jean Ferrat fuit la scène, puis réapparaît en 1985 avec un album poignant baptisé « Je ne suis qu'un cri ».
La matinée se lève, toi debout, il est temps.
Attends encore, attends. J'ai pas fini mon rêve.
Le soleil nous inonde. Regarde-moi ce bleu.
attends encore un peu. Je refaisais le monde.
En 90, la SACEM lui remet la médaille d'or. L'année suivante, il réalise un album engagé, baptisé Dans la jungle ou Dans le zoo. Ce titre métaphorique compare la société capitaliste à une jungle ou le communisme à un zoo. En 91, il publie une intégrale qui fait état de ses créations entre 1961 et 1991. Disque de platine, cet album s'exporte également au Canada, où il entamera une longue tournée. Depuis 1995, date à laquelle fut rééditée l'intégrale Ferrat-Aragon, Ferrat semble avoir réellement pris sa retraite. L'artiste publie enfin Ferrat en scène, un album acoustique, florilège de ses plus grands succès, enregistré sur scène en 1991.
Et Jean Ferrat décède en mars 2010. Plus de 5000 personnes ont rendu hommage à l'artiste lors de ses obsèques dans son village ardéchois d'Entraigues-sur-Volanne. De très nombreux collèges, lycées, centres culturels, médiathèques portent son nom en France. Une place à Paris, dans le quartier de Ménilmontant, a été baptisée Place Jean Ferrat.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit.
Et maintenant, place à Gilbert Bécaud. Monsieur 100 000 volts a allumé la chanson française pendant plus d'un demi-siècle. Sa fougue, ses talents de compositeur, sa voix rocailleuse et ses cravates à pois ont contribué à son succès par-delà les frontières hexagonales. L'arrivée de Bécaud dans le monde du music-hall des années 50-60, c'est une tornade qui bouscule toute la scène de la chanson. Il a la fougue d'un rocker, des auteurs aux textes très bien écrits, une culture musicale riche d'études classiques et quelques années de métier de pianiste accompagnateur. C'est d'abord un compositeur qui va s'allier à quelques auteurs très différents, mais tous de très grands talents. Ce cocktail détonnant fait exploser l'Olympia, qui en fera son artiste favori.
Gilbert Bécaud est né François Silly, le 24 octobre 1927. Il n'a que 9 ans lorsqu'il entre au conservatoire de Nice pour étudier le piano, son instrument fétiche. Il en sortira avec un premier prix. Soutenu par sa mère, dans ses ambitions artistiques, il persiste malgré les études perturbées par la guerre et commence à l'âge de 20 ans à travailler en tant que pianiste dans des bars et des cabarets, tout en s'ingéniant à devenir compositeur de musique de film, d'abord sous le nom de François Bécaud. La rencontre avec les paroliers Maurice Vidalin puis Pierre Delanoë sera déterminante pour son passage à la chanson. Devenus ses amis, les deux auteurs composeront de nombreux tubes pour celui qui deviendra à une manière d'idole des jeunes. Il rencontrera plus tard son troisième parolier fétiche, Louis Amad, qui était un haut fonctionnaire et un poète. En 1950, Bécaud deviendra le pianiste accompagnateur de Jacques Pils, avec qui il a réalisé plusieurs tournées. Le mariage de Pils avec Édith Piaf débouche sur l'écriture de plusieurs chansons pour la chanteuse, dont « Je t'ai dans la peau ».
Je t'ai dans la peau,
y a rien à faire. Obstinément, tu es là. J'ai beau chercher à m'en défaire, tu es toujours près de moi. Je t'ai dans la peau.
À partir de 1952, le jeune chanteur adopte définitivement son nom de scène, Gilbert Bécaud. Il prend également quelques habitudes de scène comme sa célèbre cravate à pois et un piano légèrement incliné qui lui permet de voir la salle. D'ailleurs, au bout de quelques années, il prendra un piano même transparent, un piano à queue transparent, ce qui est quand même très rare. Au début des années 50, désormais muni d'une forte expérience de la scène, qu'il a acquis lors des tournées avec Pils, Bécaud gravit à toute allure les marches du succès. Il enregistre en 1953 ses deux premiers disques, « Mes mains » et « Les croix ». En février 1954, il est choisi par Bruno Cocatrix, le nouveau propriétaire de l'Olympia, pour tenir en tant que vedette américaine l'affiche de la fameuse salle qui va rouvrir après des années d'abandon.
Quand tu danses devant moi, je sens mon cœur qui part pour vite. Au départ, quand tu danses devant moi, je sens la vie qui va, qui va. Et je pense que jamais, jamais mieux devrait t'arrêter de danser leur danse devant moi. Le temps subit, arrête-moi. J'ai besoin ce soir de tout oublier. J'ai besoin de te regarder danser. La cadence de tes pas me grise et je le sens. Besoin de joie, ma quête immense, transforme de joie. Brûlant mon corps du haut en bas. Dans ma tête en feu, je sens peu à peu la folie qui m'envahit et me trouble les yeux. Et je ne vois plus que tes jambes nues. Ça abonde de légendes, de monde merveilleux. T'es... Moi, je sens mon cœur qui bat au rythme des paquets de chansons dans ce vent. Moi, je sens la vie qui va, et je pense que jamais je me devrais t'arrêter dans ce vent.
Multipliant les tournées et les galas, en France comme à l'étranger, Gilbert Bécaud enregistre et compose beaucoup avec la collaboratrice de Pierre Delanoë et Albert Vidalin. Il tente par ailleurs timidement de percer au cinéma dans le film « Le pays d'où je viens » de Marcel Carné et dont il compose la musique, mais qui ne laissera pas un souvenir impérissable. Cependant, le 7e art restera toujours en second plan dans la carrière du chanteur.
Dès 1955, Bécaud consacre une grande partie de son temps aux tournées qui l'emmènent de l'Europe à l'Amérique du Nord en passant par le Maghreb. Chaque année, il donne parfois jusqu'à 250 concerts sur toutes les scènes du monde. Et de plus, il ne cesse de composer, et avec la complicité de ses trois auteurs favoris, crée, enregistre sans relâche. On peut juste citer en 1956 la Corrida, et en 1957, les Marchés de Provence, ou en 1958, C'est merveilleux l'amour. Bécaud négocie magistralement le virage des années 1960, grâce notamment à son gigantesque tube « Et maintenant », 1961, texte de Pierre Delanoë. Il multiplie les expériences de compositeur et signe même, avec un certain succès, un opéra lyrique, l'Opéra d'Aran.
Les baladins qui serpentent les routes viennent de loin parmi les champs de blé. Les bonnes gens regardent et les écoutent. Et les étoiles leur parlent de danser. Les vieux châteaux dressés du fond du Moyen-Âge semblent guider leurs pas légers comme un matin. Et parmi les donjons perchés dans les nuages, des princesses leur font des signes avec les mains. Mais les gars de 20 ans qui ressemblent à des dieux, insouciants et joyeux, parmi leurs rondes folles, passent sous les donjons sans dire une parole.
Gilbert Bécaud fait de multiples tournées autour du monde et cela lui inspire un nouveau tube, Un dimanche à Orly. Mais une nouvelle vague de chanteurs fait son apparition, c'est l'époque des yéyés et des rockers, comme Johnny Hallyday, Eddie Mitchell. Et bien, ces derniers lui taillent désormais des croupières à la génération. Ils taillent des croupières à tout le monde, que ce soit à la génération précédente et en particulier à Gilbert Bécaud. Donc Bécaud gère la concurrence en composant des chansons pour certains nouveaux chanteurs, comme Richard Anthony, comme Hervé Villard. L'une de ses chansons, « Âge tendre » et « Tête de bois » donne son titre à l'émission phare du jeune public. Nouveau tube en 1964 avec « Nathalie », puis en 1965 avec « Quand il est mort, le poète », hommage à Jean Cocteau. Certaines chansons de Gilbert Bécaud sont reprises par des artistes anglo-saxons et ils deviennent des succès qui font le tour du monde via de nombreux interprètes de prestige comme Frank Sinatra, James Brown, Nina Simone, Bob Dylan. En 67, c'est un nouveau tube avec l'important « C'est la rose » et en 70, « La solitude, ça n'existe pas ». Voici encore un autre tube.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps.
Je reviens. Venu en France, Bécaud interprète en 1988 son 22e spectacle à l'Olympia, qu'il occupe avec la même régularité que Jacques Anquetil gagnant le Tour de France. Mais 3 ans plus tard, déprimé par les décès de sa mère et également de son collègue Yves Montand, il annonce son intention d'abandonner la scène. Pourtant, il va retrouver le chemin des studios d'enregistrement dès l'année suivante. Mais il faut bien le dire, Bécaud n'a plus le même contact avec le public. On commence à le caricaturer en...
De 1992 à 1996, fatigué, il prend à nouveau du chant avant de sortir un nouvel album, Ensemble. Puis il fête ses 70 ans lors de son 30e Olympia, sa 30e Olympia, novembre 1997, démolie puis reconstruite. La célèbre salle fête ainsi sa réouverture avec une nouvelle prestation de son chanteur emblématique. Vigueur physique retrouvée, Bécaud étonne lors de ses prestations télévisées par une énergie toujours communicative. Une nouvelle tournée en 1998, un nouvel album en 1999, il faut faire avec. Grâce à de nouveaux auteurs et collaborateurs comme Alain Manoukian ou Luc Plamondon, Bécaud tente de s'arracher à son image engoncée dans le passé grâce à un disque résolument tourné vers la nouveauté.
Donc Bécaud va enregistrer « Faut faire avec » que nous allons écouter, mais nous allons terminer son cursus en précisant qu'en novembre 1999, il est encore remonté sur la scène de l'Olympia pour la 33e fois et la maladie finit par le rattraper. Il s'éteint le 18 décembre 2001 à bord de sa péniche dans l'indifférence médiatique quasi générale. « Faut faire avec ».
Dans le grand silence, la vie commence par une larme. Chaque enfant qui naît, c'est un prophète.
Chers auditeurs, retrouvez-nous sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Et il faudra surtout suivre notre prochaine émission à propos de Yves Montand. Un grand merci, Gilles Secase et Patrick Durand. À bientôt à vous deux.
Merci Christiane Blain.
Merci Christiane Blain.
Les soirs de fête, faut faire avec. Et la vie avance, irrésistible. Impitoyable, sans le moindre plan, le moindre break, faut faire avec. Passe les rêves qui cassent, qui laissent des traces ineffaçables, ça coûte cher. Les faux poker, les vrais échecs.